Weird.
Yasmine Abdel-Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
La mission de Geneviève Biron, la nouvelle PDG de Santé Québec, là, c'est mission impossible. J'avais hâte de vous en parler aujourd'hui parce que on dirait qu'on lui met énormément de responsabilités sur les épaules, avec des capacités qui sont limitées, des décisions limitées, un carré de sable limité. Mais on lui demande de faire un miracle. On lui demande de faire un miracle plus gros, plus important, avec plus de résultats que ce que les ministres de la Santé, ceux qui ont été là durant les 15 dernières années, ont réussi de faire. On lui demande de réussir là où Philippe Couillard, Régent Hébert, Yves Bolduc, Gaétan Barrette, Daniel Mécan et Christian Dubé ont échoué. On lui demande de renforcer la première ligne, diminuer les listes en chirurgie, d'augmenter le nombre de patients qui sont pris en charge par des médecins de famille. Et ça, sans un budget qui va être à sa discrétion, sans augmenter la capacité hospitalière et avec un syndicat hyper présent dans toutes les structures. Et ça, là, c'est pas un défi. C'est une mission impossible. Comment on s'attend à ce qu'elle puisse livrer des résultats aussi rapidement, d'autant plus qu'on lui donne un contrat de 3 ans. Dans 3 ans, là, il va y avoir un gouvernement qui va lui dire « Ouais, pas sûr, là, tu sais, les urgences, ça continue à déborder, les médecins de famille continuent, on continue à avoir une pénurie, puis les chirurgies, la liste s'allonge, je suis pas sûr. » Je vous le dis à l'avance, là, c'est certain, on lui donne pas les outils pour qu'elle puisse relever ce défi-là. Les ministres de la Santé les ont eus, ces outils-là, et ils n'ont pas réussi à répondre à la demande, à répondre aux besoins des patients, à répondre aux attentes des contribuables qui payent cher, très cher, un système qui fonce droit dans le mur. Bienvenue à Cube et bienvenue à votre nouvel épisode.
Vous avez vu un grand spectacle?
On en a un plus grand encore.
Luc Lavoie.
Écoute, j'ai tellement ri.
Yasmine Abdel-Fadel.
C'est une pièce d'anthologie.
La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel.
Luc, je t'ai pas entendu parler de la chicane chez Québec solidaire, puis je t'ai surprise.
Ben, écoute, c'est parce que je trouve qu'ils font pitié, tu sais. Puis quand je dis de quelqu'un qui fait pitié...
Tu voulais pas rajouter de l'eau au moulin?
Ben, écoute, d'abord la lettre de démission...
Elle était bien écrite!
Ah, c'était bien écrit, mais ça faisait dans la métaphore extrême, ça faisait dans le superlatif partout.
L'odeur du pays, là.
Ah, oui, c'est ça, oui, effectivement.
De la terre mouillée.
La terre mouillée, effectivement, écoute.
Et de la brise saline.
Ce que vient démontrer cette démission, c'est que le party est un peu fini chez Québec solidaire. Je veux dire, c'était un groupe extrêmement amateur, naïf, démagogues sur les bords.
Jovialistes,
des gens qui ne savaient pas compter. Ils disaient n'importe quoi à propos de n'importe quoi. Et puis là, bon, on nous dit, ben oui, mais il y avait Manon Massé. Oui, d'accord, c'était un cas assez particulier. Mais à part ça, ou même, je dirais qu'Amir Kadir a été quelqu'un d'intéressant, pour dire le moins. Il savait de quoi il parlait, en général. Madame David, ben...
était fine.
Était pas mal fine. Le reste de tout ça, c'est quoi? C'est un parti... D'abord, au départ, c'est un parti qui n'a pas de sens. Il se dit indépendantiste, séparatiste.
Il ne parle jamais ni de souveraineté, ni de séparation.
Ben jamais, parce que le parti, c'est-à-dire le fameux groupe militant, les membres du parti, il y en a plus de 50%, probablement plus proche de 60%, ouais, qui sont contre la séparation du Québec. Alors, tu navigues dans ça, là. T'es en faveur de ci, mais pas de ça. Tu veux prendre racine en région, mais là, tu sais plus comment. Puis, tout à coup, il t'arrive quelqu'un qui s'appelle Émilie...
Lessard-Terrien.
Lessard-Terrien, j'allais le dire à l'envers, dire Terrien-Lessard, mais enfin, peu importe. Cette jeune femme qui m'apparaissait qu'elle était une bonne personne, une rêveuse animée par les
beaux sentiments. Elle n'est pas méchante, Émilie de Sartérielle.
Non. Elle est animée par les meilleurs sentiments. Mais l'amateurisme était comme... Écoute, l'amateurisme et puis l'immense, l'extrême naïveté de ces gens-là. Quiconque s'intéresse à la politique, j'imagine qu'ils lisent un peu, ils connaissent la politique. C'est un sport extrême.
C'est un sport violent.
C'est un sport assez violent, je dirais, je dis même extrême. Et c'est un endroit où c'est supposé être un microcosme de notre société, puis où les combats qui ont lieu en société, les combats étant pas un bon mot, mais les débats, parfois vigoureux, sont généralement représentés dans un caucus de députés, ma foi, à peu près équilibrés. Là. Normalement, tu aurais les deux forces qui se rencontrent. Alors, tu as un jeune homme qui s'appelle Nadeau-Dubois, qui s'est rendu célèbre en 2012 en étant le porte-parole des étudiants qui réclamaient, j'ai jamais trop su exactement ce qu'ils voulaient.
Carré rouge,
c'était le porte-parole, puis c'était un extrémiste dans son langage, mais on voyait son talent de communicateur à l'époque. Il était jeune, c'est ça. Bon, là, il est un peu plus vieux, il est père de famille, il est meilleur politicien qu'il l'a jamais été, c'est juste que le véhicule qu'il a choisi pour faire de la politique est une blague.
C'est comme Schumacher dans une Lada.
C'est bon, ça!
Mais tu sais, c'est un des politiciens les plus talentueux de sa génération, si c'est pas le politicien le plus talentueux de sa génération, avec un groupe absolument surréaliste. Là.
Pour ne pas dire farfelu et loufoque, tu sais, je veux dire, tout le passage de Catherine Dorion, qui m'amusait beaucoup en passant, moi, j'avais rien contre. Je veux dire, il y a tellement de platitudes puis de monde ennuyant dans le discours.
Piquant, là. C'était le Tabasco de Québec solidaire.
C'est ça. Et puis, bon, ça faisait appel aux jeunes aussi qui sont un peu dans cette lignée-là de dire « Laissez-moi la paix avec vos histoires de vieux puis de baby-boomers puis de faire nous, on va être des socialistes puis on va nationaliser ceci puis cela. » Puis là, t'écoutes ça puis tu dis « Mon Dieu Seigneur. » Puis là, tout à coup... s'ajoute à eux, bon, Gabriel Nadeau-Dubois.
Qui est beaucoup plus terre-à-terre.
Il est très, très à terre. Il doit être très malheureux, pour dire le vrai. Sa tentative, ça a été de professionnaliser, l'expression est la bonne. C'était une gang d'amateurs, puis là, il s'est dit, ça prendrait quelques-uns qui lisent les sondages, puis les tendances dans la population, tu sais, la politique. Si tu gagnes pas, t'es pas capable de rien faire. Alors, faut d'abord que tu t'attelles à gagner si tu penses vraiment vouloir changer des choses fondamentales. Alors, il n'y en avait pas de ça. Nadeau-Dubois a essayé d'amener quelques joueurs externes qui viendraient amener un peu de discipline. Puis, écoute, on ne peut pas réinventer la roue à chaque jour. Là. Comment tu fais quand tu veux un parti national qui veut gagner dans 25, 30, 40 comtés? Comment tu fais avec autant de niaiseries? Tu sais, c'est loufoque,
mais
est-ce là.
Est-ce qu'on reproche trop à Gabriel Nadeau-Dubois d'avoir embourgeoisé Québec solidaire? T'sais, ils sont tous habillés propres, ils sont tous beaux, ils sont comme, tu sais, ils se font dans la masse, puis ils adoptent un même discours de la vieille politique, comme il dirait, alors qu'ils devraient être sur le chemin des sentiers à sentir l'odeur de la terre mouillée.
Mais c'est un parti de Montréal, tu sais, ce genre de... Je suis un Rimouskois, alors c'est pas mal loin de Montréal, c'est 550 kilomètres. Ça prend pas des partis, même qu'à Rimouski, parce qu'il y a l'Université du Québec à Rimouski, qui est une des importantes composantes, n'eût été de cela, il serait zéro à Rimouski, mais ils ont fait un petit place pendant les élections. Ils n'ont pas gagné, évidemment. Mais c'est un parti de Montréal. Ce sont des débats montréalais, menés par des classiques montréalais. Un parti très imposteur, tu sais, qui se dit indépendantiste, puis qu'en même temps, il ne veut pas en parler.
Il n'y a plus le NPD.
C'est ça, il n'y a plus le NPD. Puis, tu sais... Quand j'ai vu sa démission, j'ai été plus ou moins surpris. Elle est complètement vidée. Ben, coudonc.
Ça n'a pas pris longtemps.
Ben, écoute. Puis évidemment, je sais pas ce qu'elle pensait. Là. Ils ont donné 30 000 piastres pour ses dépenses. Ça a l'air qu'elle trouvait que c'était pas assez. C'est ça, elle ne dit pas dans autant de mots. Hein, parce que quelqu'un de Québec solidaire qui parle d'argent...
Mais non.
Ben voyons donc. Nous autres, on va vivre dans une société sans argent.
Faut parler d'incongruité organisationnelle.
Ah, ça, c'est pas pire. Dis-le encore.
Incongruité organisationnelle.
Ah, c'est ça l'affaire. Tu me le sais.
Ça, c'est la place de parler de cash.
Puis il y a un paquet de farfelus dans ça. T'sais. Tu penses, je dirais pas qu'il est farfelu, mais Vincent Marissal. Bon, il cherche un job. Il s'en va à Ottawa rencontrer l'entourage de Justin Trudeau. Puis là, il explique qu'il aimerait être leur candidat. Puis les autres, ils disent, bon, on va te revenir. Finalement, ça prend du temps, fait qu'il est fatigué, puis ça, il prend un job. Il faut qu'il gagne sa vie. Alors là, il saute à Québec solidaire. Ah, ouais. C'est tout un saut, hein.
Mais c'est lui qui a le plus raison. L'histoire lui a donné raison. Tu sais pourquoi? Parce que lui, là, il l'a vu venir que Justin Trudeau allait devenir un gauchiste. Puis il avait vu venir que Québec solidaire, ce serait des fédéralistes dans l'âme.
Tu sais, Vincent Marissal, à l'époque où il était chroniqueur, c'était pas un gars de la gauche, pas en tout.
Ben non.
C'était même, s'il y avait quelque chose, il était plate un peu. Il faisait dans le consensus, à quelque part dans le milieu. Là, c'est ça l'équipe qu'on envoie au combat. L'équipe de Québec solidaire débarque. Puis là, ils font des... Quand on applaudit, on fait ça avec nos mains. Puis il y a tout ça. Tu sais, c'est... J'étais allé à un congrès, hein, ici à Montréal, enfin sur la Rive-Sud, je me souviens plus.
De Québec solidaire?
Oui, oui, oui.
Ils t'ont laissé rentrer?
Écoute, ils me regardaient tous comme... Ouh, le diable vient d'arriver.
Ils n'avaient pas peur?
Et évidemment, leur assemblée générale, ça se tient à huis clos.
Ah, oh, tu pouvais pas rester?
Ben, aucun journaliste là, disait... Bon, là, il y avait comme un photo-op, comme on dit au début, puis là, les caméras sortent, et puis là, on débat. Puis quand on sera prêt à parler, on vous réinvitera. Puis là, ils les réinvitaient, puis là, t'avais Manon Massé.
Mais ils font pas rentrer le loup dans la bergerie, là.
Avec Gabriel Nadeau-Dubois. Puis là, ils disaient quelque chose, puis ça faisait... Mais évidemment, vous pouvez nous voir à la télé maintenant, fait que c'était ça.
Mais on a besoin d'un parti de gauche.
Oui, mais il n'est pas obligé d'être farfelu, tu sais. On peut être à gauche et ne pas être farfelu.
Mais GND veut enlever ce côté folklorique farfelu de la gauche, là, de la gauche socialiste.
Ben oui, mais écoute, François Mitterrand, il a pris le pouvoir, là. C'était la gauche, ça. C'était la gauche. Il y avait même un pacte avec les communistes, puis il en a nommé 5 dans son cabinet. Tu peux avoir une gauche intelligente. Je pense que Catherine Dorion était plus intelligente que la plupart d'entre eux, en passant.
Ouais, mais elle était plus extrême aussi.
Elle était plus quoi?
Extrémiste, extrême dans ses idées, dans sa manière de faire,
ouais,
dans les
ouais,
moyens.
Oui, tout à fait. Mais présentement, ils font quoi, le Québec solidaire?
Ils tirent sur Gabriel Nadeau-Dubois.
Ouais, oui, c'est ça. Ils sont en train de s'entretuer. Ça devait arriver. C'est pas un parti sérieux. C'est pas un parti qui... Tu sais, ils ont pas de chef. Puis là, quand tu vas sur le site du directeur général des élections, leur chef, c'est un parfait inconnu, un nommé Delaunay, on sait pas quoi. Ils ont des co-porte-parole. Il y a pas de chef, il y a pas de hiérarchie, il y a rien. En fait, il y a rien. Qu'est-ce que Québec solidaire? C'est rien. C'est-à-dire que ça a changé rien, n'a rien sur quoi que ce soit. Et puis là...
Tout de même un parti qui a 20 députés.
Est-ce qu'ils ont eu 20?
Oui.
C'est 20, non, je pense
pas. Ben, ils ont atteint le 20. Ils avaient 19, puis ils sont arrivés à 20.
Je me rappelle plus si c'est ça, mon tout goût.
C'est ça, une affaire de même.
Une affaire de même. Et puis, je les regarde aller, puis je me dis, quelle tristesse. Ils pourraient pas faire d'autres choses de plus utiles dans la vie, là, comme Clich Rivard, qui était élu, c'était un avocat des immigrants.
C'est un gars intelligent.
C'est un gars intelligent, mais qu'est-ce qu'il fait là? Le vois-tu de temps en temps intervenir dans des débats importants? Non.
Mais là, je vais te montrer quelque chose.
Vas-y.
Ils ont vraiment, là, ils semblent avoir de la misère avec leur permanence, là, puis leur montre qui s'occupe du site Internet.
Ils se sont syndiqués.
À démissionner hier.
Découvrez l'équipe solidaire.
À démissionner hier.
Et elle est là, avec son
elle
plus
est là,
beau sourire.
Avec encore avec Gabriel Nadeau-Dubois, puis rien, nos porte-parole.
Ben
ils
oui.
l'ont même pas enlevé 24 heures après.
Ils se disent peut-être qu'on va être capable de la convaincre. Écoute, Émilie, prends un petit repos, fais un beau dodo.
Comme la publicité, prends-toi une sneaker. Voyons, ils veulent pas dépenser de l'argent sur la mise à jour du site Internet pour que ça serve à rien.
C'est pas important,
non.
Ce qui vient de se passer. C'est sans importance. Ça change strictement rien à la dynamique politique du Québec. Il y a toujours des jeunes qui vont s'élire quelqu'un comme ça, de temps en temps, ça arrive, un petit mouvement qui passe. À part ça...
Change rien.
Désolé.
Luc Lavoie, toujours un plaisir.
Salut.
Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
Donald Trump a été condamné mardi à 9 000 $ d'amende. Pourquoi? Pour s'en être pris publiquement aux témoins et jurés en marge de son procès pénal à New York, où le juge a menacé de l'incarcérer, rien de moins, s'il recommençait. On en parle avec Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour, Guillaume.
Bonjour, Yasmine.
Donald Trump, là, on dirait qu'il n'a pas peur, lui, des amendes pour continuer à faire campagne dans les couloirs des palais de justice.
Ben, à date, ça marche dans son personnage. Son personnage est celui d'être une victime et, selon sa rhétorique à lui, par un système de justice corrompu, par un juge corrompu, par un jury corrompu, tout ça contrôlé par les démocrates. Alors, à chaque fois que le juge veut lui en rajouter une, ben ça joue dans son personnage. Bon, 9 000 $ pour peut-être vous et moi, ça peut être quelque chose qui va paraître dans le budget annuel. Pour oui. Donald Trump, c'est un budget de publicité magnifiquement bien investi. Et là, le juge est quand même un peu coincé, là. D'aller dire, normalement, si c'était un personnage quelconque, un outrage au tribunal, c'est très grave, il y a des gradations, il y a eu plusieurs avertissements, puis ça pourrait finir à passer la nuit en prison. Mais de là à mettre le candidat numéro un, c'est quelqu'un qui pourrait devenir président, le premier porte-parole des deux grands partis aux États-Unis, en prison, sur quelque chose qui n'est pas sur le cœur du procès, ça fait beaucoup sur les épaules d'un seul juge, ça fait beaucoup pour l'apparence de justice ou l'apparence de partialité. Alors, j'avais cette question-là hier, puis j'avais dit, ça va finir avec une amende parce que ça permet à tout le monde de sauver la face. Le juge fait valoir que son ordre veut dire quelque chose. Donald Trump peut payer et on s'en sort. Alors, avant qu'on finisse en prison, j'ai l'impression qu'on pourrait rejouer dans le même film. On a seulement qu'à augmenter le montant, là.
Mais ce procès-là, c'est à particulier de voir comment Donald Trump, qui est tenu à y assister là, physiquement, il a tourné ça, finalement, à un quartier général de la campagne présidentielle.
Des fois, ça me fait penser, il y a déjà eu une campagne présidentielle où le président, parce que sa femme était très malade, devait rester à son chevet et refusait de se déplacer. Et son organisateur, qui était un génie, c'était le président McKinley, s'était arrangé pour que les gens fassent un voyage littéralement devant le perron de la maison, puis ils sortaient, puis là, ils faisaient quelques discours, puis les gens repartaient. Bien là, c'est presque la même chose, mais à la sauce 21e siècle. C'est-à-dire que Donald Trump ne se promène pas beaucoup, mais toutes les caméras sont là à l'entrée et à la sortie du tribunal, et il a un mégaphone très important, puis à la fin, ça a probablement le même valeur politique pour lui. Parce que si les procès nuisaient à Trump, on le saurait, là. À la fin, la majorité des gens qui n'aiment pas Trump pensent qu'il est déjà coupable et la quasi-totalité des gens qui aiment Trump considèrent que ce procès-là est une vengeance politico-judiciaire. Alors, ça joue dans son personnage à lui. Pendant ce temps-là, par contre, Joe Biden, tranquillement mais sûrement, avec tous ses problèmes, ramasse beaucoup d'argent et lui, ben, peut s'occuper d'être président. Puis là, ben, ça me fait rire quand les gens disent ben, on veut débattre l'un contre l'autre. Biden aurait pu dire moi, je suis prêt. Mais il y en a un qui n'est pas disponible le jour parce qu'il est au tribunal. Alors, à la fin, tout ça, petite distraction dans l'équation, ce n'est pas fondamental. Et il n'est pas dit non plus que ce. D'ailleurs, sur les 4 procès criminels, Yasmine, il y en a 2 au niveau de l'État, 2 au niveau fédéral. C'est le seul, je pense, qui aura une finalité peut-être avant la date de l'élection. Et même s'il est reconnu coupable, c'est écrit dans le ciel qu'il va aller en appel. Alors, il n'y a rien de ça qui va être un jugement fini et terminé avant novembre.
Parlons de cette autre histoire, mais toujours en lien avec notre fameux Donald Trump, celle qui est perçue comme celle qui va être sa colistière, là. C'est pas encore annoncé, c'est pas encore officiel, mais elle est, tout le monde parle d'elle. Elle s'appelle Kristi Noem. Elle publie finalement ses mémoires. Une grande fan de Donald Trump. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ses mémoires sur lesquelles The Guardian a mis la main? Ben, qu'elle aurait abattu son chien, sa chienne, en fait, parce que elle était trop excitée puis qu'elle était indomptable et donc il fallait qu'elle s'en débarrasse. Alors, elle lui a tiré une balle dans la tête. Aux États-Unis, là, tu peux tuer bien du monde, mais touche pas aux animaux et certainement pas aux chiens. Est-ce que c'est une Sarah Palin en devenir que Donald Trump va récupérer?
Ben, la comparaison au niveau des déclarations stupides ou des, appelons ça, là, si on était au tennis, on appellerait ça des erreurs non provoquées. C'est assez extraordinaire. J'ai à peu près tout vu déjà en politique américaine, mais là, je pensais jamais un jour, parce que, mettez le contexte, là. C'est pas une information qu'on réussit à déterrer de braves et brillants journalistes d'enquête.
Oh, non, non.
Qui sont allés déterrer des squelettes ou des choses gênantes dans la vie de Kristi Noem. C'est elle qui l'a écrit dans ses mémoires à elle, en disant, et elle parle pas d'un chien, elle dit un puppies. Donc, un petit chien.
Un chiot.
J'imagine gentil. Et elle m'a même mis la phrase, je détestais ce chien. Il était l'incarnation, il était la joie incarnée. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Je l'ai abattu. Après ça, il y a un autre passage où elle dit qu'elle a abattu une chèvre. Et là, les enfants arrivent de l'école puis disent, mais où sont nos animaux? C'est absolument surréel. Alors, elle ne sera pas, je pense, la candidate à la vice-présidence de Donald Trump.
Tu penses?
Bon, il y avait déjà d'autres enjeux aussi, là. Elle change pas l'équation électorale. Elle vient d'un État hyper républicain. Elle a été pendant très longtemps quelqu'un qui a poussé pour une interdiction au niveau fédéral, au niveau de l'avortement. Alors, ce serait un cadeau pour les démocrates. Mais ses mémoires, c'est comme si c'était les stratèges de Joe Biden qui les avaient écrits. Ça n'a aucun bon sens. Et si vous n'êtes pas convaincu de dire dans vos mémoires politiques que d'abattre un chiot, c'est pas une bonne idée, ben, ouvrez les livres d'histoire. Mitt Romney avait dit dans un voyage de famille qu'il avait mis le chien dans une cage sur le dessus du station wagon pour un road trip avec la famille. Ça y avait causé plein de problèmes. Lyndon Baines Johnson, président dans les années 60, adorait son chien. Il disait que son chien aimait être tiré par les oreilles. Il y a quelqu'un qui a pris une photo. Ça a été un bordel politique pour lui. Je pensais pas que de dire que s'en prendre aux petits animaux, c'était mauvais pour la politique, mais c'est clair qu'il y en a qui n'ont pas eu le message.
Non, mais clairement, elle n'a pas eu le message, d'autant plus que, déjà, Donald Trump, là, les amoureux des chiens, là, ils l'ont toujours pas avalé le fait que c'est un des rares présidents, si c'est pas le seul, à ne pas avoir eu, dans les dernières années, là, je parle des dernières décennies, ne pas avoir eu un chien de la Maison-Blanche lorsqu'il était président des États-Unis, contrairement à Obama qui l'a précédé, Biden qui lui a succédé. L'amour des chiens, c'est un enjeu politique. D'ailleurs, on n'a qu'à voir Fox News aujourd'hui sur cette histoire, sur Kristi Noem, réagir. Eux-mêmes sont un peu mal pris dans la défense du MAGA movement.
Dans un pays aussi divisé, il faut rendre à César ce qui est à César. Madame Noem a réussi à faire une alliance entre la droite et la gauche, entre les républicains et les démocrates. Ils sont tous unis contre elle. Alors vraiment, là, c'est si elle voulait être sûre de ne pas être considérée pour être vice-présidente, elle a réussi ça très, très bien. Mais d'ailleurs, sur la vice-présidence, là, oui, les gens des fois font flotter leur nom, mais je pense que mettez un petit 2$ sur Tim Scott, le sénateur de la Caroline du Sud, c'est probablement c'est un très bon candidat en soi, mais ça viendrait ébranler les colonnes du temple un peu chez les démocrates. Parce que, évidemment, qu'il y a une vaste majorité de la population noire qui soutient les démocrates, mais si ça baissait un peu, comme on a une élection au fil du rasoir, ça pourrait causer certains enjeux, ou sinon sécuriser certains États où la population noire est importante.
On n'a plus entendu parler de Nikki Haley. Rapidement, Guillaume, elle devient quoi? Elle fait quoi? Est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'on entend parler d'elle ces temps-ci?
Mais pas beaucoup, certainement pas du point de vue de Trump pour les bonnes raisons. Parce qu'imaginez, il y a eu les primaires, parce que c'était pas complètement terminé, en Pennsylvanie. Alors, tout le monde sait que c'est Trump. C'est un peu comme s'il y avait une élection générale partout au Canada, et c'est déjà arrivé au Québec d'ailleurs, je pense que c'était dans le comté de Masson. Le candidat élu est mort le jour de l'élection. Bon, ben on reprend l'élection après. Tout le monde sait qu'il va former le gouvernement, mais il faut bien le faire. Alors, on est en Pennsylvanie. Tout le monde sait que Mme Haley n'est plus candidate. Elle a annoncé qu'elle se retirait, il y a déjà de ça, plus de 2 mois. Elle a fait, Yasmine, 16 % des votes. Ça veut dire qu'en Pennsylvanie, un des 6 États les plus importants, ben, il y a des républicains qui sont allés voter, puis on dit, ben, moi, entre Trump, qui est le candidat, et Mme Haley, qui traîne encore sur le bulletin de vote, mais qui n'est plus candidate, j'aime mieux Mme Haley. Et peut-être que c'est ça si on avait à choisir un critère qui nous permettrait de dire qu'il y a peut-être un petit peu plus de chances que ce soit Biden, des démocrates qui se lèvent le matin en disant « Je m'en fous de Trump. En fait, je m'en fous de Biden. Il faut que Trump perde, donc j'appuie Biden.
Ouais. »
Il n'y en a pas. Des républicains qui se lève le matin en disant « au nom de l'intérêt général, il faut pas que ce soit le candidat républicain qui gagne », il y en a. Et là-dessus, on a juste à penser à Mme Cheney, à M. Kinsinger, il y en a d'autres.
Chris Christie.
Les républicains qui, par intérêt national, disent « non, la République d'abord ». Et ça, peut-être que ça va faire qu'il y a, à la limite, même s'il y a 5 % des républicains ou 2 % des républicains qui décident de rester chez eux, dans une élection, pensez par exemple le Nevada, Yasmine, Joe Biden a remporté le Nevada et ses votes électoraux par 3500 votes en 2020.
Ouais.
Alors, ça prend pas beaucoup de timidité dans les électorats des uns et des autres pour avoir un impact hyper déterminant. Et c'est probablement ça, une réelle inquiétude dans le camp républicain.
Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand, merci beaucoup, toujours très éclairant.
Au plaisir.
Bye-bye.
Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
On poursuit l'épisode de Yasmine dans quelques minutes alors qu'on va revenir sur ce nouveau fléau, les vols en épicerie. Il y en a tellement en ce moment que là, ben, les épiciers doivent renforcer la sécurité en ajoutant des dispositifs anti-vol sur les paquets de viande. Puis là, on parle pas nécessairement de gens qui cachent du fromage dans leur manteau. Là, il y a vraiment comme un genre de réseau de vol qui est en augmentation. Certains remplissent des paniers et partent sans payer. Puis là, ben, il y a des détaillants même qui disent que quand l'alarme retentit à la sortie du commerce, dans 50 % des cas, c'est des vols. Donc, c'est vraiment un nouveau fléau qu'on voit. Puis, d'ailleurs, il y avait l'Association des détaillants en alimentation du Québec qui avait justement organisé en février 2024 un sommet de la prévention sur le vol à l'étalage. Puis, en tout cas, du moins jusqu'à maintenant, là, les fameux dispositifs anti-vol, ceux qui l'ont appliqué, ben on voit quand même une bonne réponse. Là, ça décourage vraiment les voleurs. Bref, il y a un auditeur, entre autres, qui m'a fait rire via la messagerie texte qui nous a dit « C'est quoi, là, on va apprendre qu'il y a un marché noir du steak haché? » En tout cas, si c'est le cas, j'espère qu'ils ont des bonnes glacières parce que ça dure pas très, très longtemps, là, le steak haché. Bref, on va en parler dans les prochaines minutes avec Yasmine. Et en fin d'épisode, on va revenir sur les nouvelles mises en garde qui vont apparaître à partir d'aujourd'hui sur les paquets de cigarettes, oui, mais aussi sur le filtre de chaque cigarette de long format. Donc, tu sais, on le sait, là, il y avait déjà depuis de nombreuses années les images choquantes, les messages aussi. Mais là, les fabricants doivent, à partir d'aujourd'hui, imprimer des mises en garde sanitaires du genre la cigarette endommage vos organes, du poison dans chaque bouffée. Alors, on en parle en fin d'épisode avec la directrice générale du Conseil québécois sur le tabac et la santé. Et dès 15h, ben, c'est l'épisode de Sophie Durocher. Attention aux Swifties, ça se pourrait que vos oreilles frisent parce que Rémi Villemur se pose la question, si Taylor Swift est une poète, qu'est-ce que la poésie? Est-ce qu'on s'émerveille devant n'importe quoi? Bref, on va revenir là-dessus. Et Sophie reçoit aussi la journaliste et documentariste Marie-Christine Bergeron pour parler de la suite du reportage « Père sans enfant », une série qui avait été diffusée en novembre 2023. Mais là, Marie-Christine et Maxime Landry ont découvert l'existence d'un troisième donneur de sperme qui serait un membre de la même lignée que les deux hommes géniteurs d'une centaine d'enfants. Donc, on la reçoit en entrevue. Je vous invite à rester avec nous avec l'application, évidemment, de Cube ou encore lecube.ca. Si vous êtes au bureau, par exemple, si vous faites des commissions, ben là, vous pouvez nous écouter dans vos écouteurs en formule audio. Et si vous êtes à la maison, ben profitez du fait que Cube est maintenant à la télé. Évidemment, il faut l'ajouter à son forfait de chaîne spécialisée, mais souvent, dans nos forfaits de chaîne spécialisée, il y en a une qu'on n'écoute pas tant que ça. Donc, vous avez juste à faire le changement et vous allez voir comment ça se passe ici, dans nos studios.
Pour une analyse franche et convaincante, Yasmine Abdel-Fadel.
Le vol à l'étalage, c'est un fléau qu'on voit de plus en plus présent. Aujourd'hui, on en parle dans le Journal de Montréal du vol de steak. Il faut mettre des antivols sur les barquettes de steak, imaginez-vous. Mais sortons juste du vol alimentaire parce que on est loin là du père de famille ou mère de famille qui a pas de quoi nourrir ses enfants puis qui vient finalement par nécessité voler là. On n'est pas là-dedans là. Puis c'est important de le dire puis de le redire parce que dire ça et colporter ça nuit aux enquêtes policières et à la sensibilité de la police pour enquêter sur ces vols à l'étalage. Mais c'est un fléau qu'il y a dans tout le commerce de détail. On en parle avec Michel Rochette, président du Conseil canadien de commerce de détail au Québec. Bonjour, M. Rochette.
Bonjour à vous.
Le vol à l'étalage, là, ça coûte cher aux détaillants?
Ben, il y a plusieurs conséquences qui découlent du vol. Puis effectivement, le prix, c'en est un, mais c'est tous les enjeux de sécurité parce que ça reste quand même des criminalités. Puis quand des gens volent et recommencent et revolent encore, évidemment, ça finit par devenir ce qu'on appelle la maternelle du crime. Et c'est des gens qui deviennent éventuellement des criminels notoires. Puis il y a toujours un enjeu, c'est pas tout le monde évidemment, mais il y a un enjeu parmi les victimes qui peuvent en découler, les employés, les autres clients, les coûts dans les commerces. Puis ça, en général, ben, c'est tout ce qui s'appelle la criminalité qui, malheureusement, qu'on nourrit de cette façon-là, sans jeu de mots.
Mais est-ce que les autorités policières prennent ça au sérieux? T'sais, on a vu avec le phénomène des vols d'auto, là, la police ne se déplace plus pour prendre la déclaration de la personne qui a été victime de ça. C'est tellement devenu régulier, fréquent, que ben fais une déclaration, appelle tes assurances, puis à la limite, il aimerait dire « sac-nous patience ». Est-ce que c'est la même chose que l'on voit dans le vol à l'étalage?
C'est malheureux, mais oui. C'est un des enjeux qu'on a, et pas seulement au Québec, mais à travers tout le pays. D'abord, il y a un enjeu d'effectifs policiers et de deux, il y a un enjeu du système judiciaire lui-même. Parce que si on arrête quelqu'un puis on le met devant un juge et puis que la personne ressort de la cour avec un dossier vierge, ni la police ni le système de justice sont gagnants. Fait, au final, ça fait en sorte que les policiers, déjà, qui manquent d'effectifs, ben, à prioriser, ben, ils préfèrent prendre d'autres crimes. Le problème, ben, il est là. C'est quand les gens finissent par avoir l'impression qu'ils se feront jamais prendre, ben, ça crée évidemment ce qu'on appelle la récidive. Et malheureusement, ce qu'on a vu un peu partout au pays, ben, c'est lorsque le crime organisé finit par prendre la partie. On parle moins évidemment de la nourriture, mais d'autres types de produits pour lesquels la revente est tellement facile maintenant, qu'elle soit en ligne ou dans certains commerces dédiés à la revente. Donc, il y a un enjeu réel où moins on cherche à attraper les gens, plus on crée, dans le fond, plus on crée le problème. Alors, les corps policiers, je crois qu'ils voudraient aider, mais c'est pas dans leur priorité parce qu'ils manquent d'effectifs. Puis de deux, s'ils arrêtent quelqu'un, ils sont presque certains que cette personne-là ne se retrouvera pas malheureusement dans le système judiciaire avec un casier ou à tout moins d'information à ce sujet.
Pour le commun des mortels, quand on pense à vol à l'étalage, on se dit ben c'est souvent des jeunes là, tu sais, secondaires qui sont pas allés dans leur cours ou après les classes, qui sont partis piquer dans les magasins de détail. On pense à une personne là qui pourrait être désorganisée avec troubles de santé mentale ou même c'est juste un criminel disons d'opportunité qui voit une opportunité de se faire un peu d'argent rapidement. Mais la réalité est tout autre. Là, on est en train de parler ici de bandes organisées. Ça commence à être du crime organisé. Est-ce que c'est parce qu'on a trop laissé faire le petit vol, la petite délinquance, qu'on en est arrivé à une opportunité plus organisée pour le crime, pour ces criminels?
Vous avez, en fait, tout à fait. Puis juste la terminologie « vol à l'étalage » donne l'impression qu'on parle d'un petit gadget qu'on a pris sur une étagère. Malheureusement, c'est un problème qui est plus large que ça. Oui, il va arriver des cas isolés. Oui, il va arriver des gens qui tentent pour une première fois de voler quelque chose qui n'a pas d'importance. Mais le problème, c'est la multiplication de tout ça. On parle de plusieurs centaines de millions de dollars par année là, qui sont volés à travers le Canada, plus même plus proche du milliard que du million. Donc, c'est un phénomène qui est immense. Il n'y a pas de limite, dans le fond, au type de produits qu'on peut voler, que ce soit de la nourriture ou des produits électroniques, en passant par les voitures, des vêtements. Puis, il y a toutes sortes de stratagèmes qu'on a découverts avec le temps. Puis, je n'ai pas envie de les résumer entre nous, mais on voit qu'il y a des gens qui sont de plus en plus innovants dans leur façon de voler et de revendre. Puis, encore une fois, le problème, c'est quand les gens ont l'impression qu'ils se font jamais attraper, ben qu'est-ce qui peut les dissuader? Donc, les commerçants, souvent, sont laissés à eux-mêmes pour développer leurs propres outils par des caméras particulières, par des services de gardiennage. Mais le problème, c'est que tout ça dépend d'une capacité de surveiller, de voir, d'interagir. Ça demande des employés, ça demande beaucoup de monde. Et malheureusement, on est dans une situation de main-d'œuvre qui affecte toute l'industrie. Et une des conséquences, c'est le fait qu'il y a de moins en moins de personnes pour surveiller. Et ça provoque, entre autres, la recrudescence qu'on a vue depuis quelques années.
Dans le phénomène de l'indifférence entre guillemets, puis c'est important les guillemets, des forces policières devant ce fléau, est-ce que, j'essaie de déterminer qui est là en premier, la poule ou l'œuf, là, parce qu'on voit souvent aussi des détaillants fermer les yeux trop souvent sur des petits vols d'opportunité, de la personne qui a essayé de glisser quelque chose dans son carrosse pour dire « je vais pas appeler la police pour ça, je vais pas judiciariser ça, je vais taper ses mains et te dire de pas revenir ». Puis passer à autre chose, de toute manière, ça me coûterait plus cher que de suivre ce dossier-là. Est-ce qu'il y a un mot d'ordre donné aux détaillants de ne plus laisser passer aucun vol à l'étalage de manière à ce que ça soit dissuasif?
J'aimerais vous en fait, c'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire que le problème est le suivant. D'abord, on peut pas demander à des employés d'interpeller des voleurs. C'est pas leur travail, puis c'est, ça met leur vie en danger. On ne peut pas faire ça. Ça prend des gens qui sont spécialisés. Pour ça, ça prend donc de la relève, donc des gens qu'on engage pour cette à cette fin-là. Il y a des compagnies qui offrent leurs services, qui sont trop peu nombreuses aussi, puis il y a des coûts affectés à ça. L'autre problème, c'est pas tant qu'on n'interagit pas, c'est dommage d'interpeller quelqu'un. Si, par exemple, vous avez un gardien de sécurité qui attrape quelqu'un, puis qui, une fois qu'il l'a attrapé, appelle la police, et que la police ne se présente pas, ils n'ont pas le choix de laisser la personne repartir. Donc, c'est pas tellement une question de n'interagissons pas, mais ça devient délicat, des fois, de savoir que, l'étape finale qui est de venir interpeller l'individu, si elle n'a pas lieu, évidemment, ça décourage tout le monde. C'est pour ça que le Conseil canadien du commerce de détail, tantôt vous avez parlé d'un événement, il y a plusieurs événements en fait qui portent sur la prévention des pertes qu'on appelle. Et nous-mêmes, notre organisation, on a fait le mois passé à Toronto un événement pan-canadien de 300 experts du domaine qui va de la fraude à la cybersécurité au vol à l'étalage. Donc, toute cette équation-là mis ensemble, donc les experts de tous les domaines, incluant les détaillants et les corps policiers, et pour discuter d'avenir. Et parmi les gestes que nous, on a posé au Conseil canadien au cours des dernières années, c'est en collaborant avec les corps policiers et les détaillants dans certaines régions du pays, on a fait ce qu'on appelle des blitz, où pendant une semaine, deux semaines, on s'entend avec le corps policier dans certaines villes, et puis dès qu'un des commerçants appelle, tout de suite la police interagit, vient interpeller. Donc, en décembre dernier, on a réussi à faire en sorte qu'à peu près 1000 personnes ont été arrêtées à travers le pays, dont beaucoup, beaucoup de récidivistes. Ça a permis, mais il faut travailler ça en industrie, il faut travailler collectivement, et c'est à ça qu'on sert notamment, mais ça prend des gestes qui permettent d'asseoir les gens aux tables, notamment les détaillants, évidemment les corps policiers. Il faut que les gouvernements également ajoutent leur voix parce que le système judiciaire lui-même doit être vu pour qu'on considère le crime comme étant du crime.
Évidemment. Il y a aussi tout le phénomène de les caisses sans contact, là, bref, les caisses là, qu'on utilise tout seul pour payer notre épicerie. Est-ce que ça rajoute un élément, là, puis un point particulier où le vol à l'étalage, on se dit, je veux faire payer quelque chose qui coûte moins cher en glissant un steak, deux iPads en dessous de mon sac. Est-ce que l'industrie s'aide en créant des vulnérabilités comme ces caisses libre-service?
Dans tout le discours qu'on a tenu depuis quelques années, à l'effet qu'il fallait tout faire pour colmater le problème de la pénurie de main-d'œuvre, il y en a qui sont les suivants. Donc, on doit innover forcément, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais des fois, on n'a pas le choix d'innover, même si on a besoin de personnes pour gérer des fois des corps de travail. Alors, dans le cas des caisses enregistrées, des caisses automatisées, le problème est suivant, c'est des fois volontairement, des fois involontairement, des gens scannent pas le bon produit, oublient le produit dans le panier. Ça provoque ça, il y a moins de personnes pour surveiller. Mais dès qu'il y a moins de personnes pour surveiller parce qu'on manque de personnel, forcément, encore une fois, il y a beaucoup d'angles morts, dont évidemment le vol et puis tout ce que ça peut engendrer comme intérêt. Puis encore une fois, il faut créer la dissuasion, il faut s'assurer que les gens comprennent que c'est jamais un crime qui devrait être impuni et qui sera impuni. Et puis c'est dangereux à la fois pour eux-mêmes, pour ceux qui décident de le faire pour une première fois. Ils mettent évidemment leur propre survie, leur propre avenir en jeu. Mais également, le problème, c'est tout ce qui va découler, puis le fait que ça va impacter les autres clients. Donc, on a vraiment un gros travail à faire de sensibilisation pour essayer de colmater la brèche. Oui, les éléments technologiques parfois nuisent, ça peut arriver pour les caisses. Dans d'autres cas, vont aider, comme les caméras de surveillance. Mais le plus simple, ce serait qu'on soit capable d'envoyer le signal que si vous faites ça, vous êtes à risque, vous allez vous faire arrêter, et c'est un crime qui ne sera pas impuni. Mais pour ça, il faut encore une fois travailler avec les corps policiers et les gouvernements pour que ça change.
Avant de vous laisser aller, M. Rochette, quels sont les objets ou la famille d'objets qui sont les plus convoités par ces criminels? Parce que là, aujourd'hui, on parle de bouffe, mais je pense pas que ça va être ça le principal. Est-ce que c'est l'électronique? Est-ce que ce sont les vêtements?
De tout. On a notamment, par nos gestes, on a réussi à faire démanteler, par exemple, un entrepôt à Vancouver dans lequel s'accumulait, il y a le crime organisé qui mandatait des gens pour aller voler certains produits. Donc, tous les produits sont bons. Dès qu'il y a des gens qui sont intéressés à les acheter, forcément, il y a des preneurs. Je vous aurais dit il y a deux semaines que les steaks étaient volés. Vous m'auriez dit, mais on le voit maintenant. Alors, tous les types de produits sont à risque, moindrement qu'une valeur. Et puis, malheureusement, il y en a pour qui, dès qu'ils comprennent qu'ils volent, puis s'ils croient qu'ils se feront jamais arrêter, tout devient intéressant pour eux. Puis, ça devient presque un challenge. Alors, on a vraiment besoin de travailler en amont, beaucoup plus en amont, pour éviter que ça devienne un problème plus grand. Puis je dois ajouter un détail, c'est un phénomène qu'on a vu croître depuis 3 ans, 4 ans, c'est une multiplication des cas où la violence, malheureusement, s'invite dans l'équation. Ah. Et ça, c'est un phénomène qui est en croissance. Depuis les 4 dernières années, nos membres nous ont indiqué que c'est près de 300% d'augmentation des cas malheureusement qui sont liés à la violence dans les dans tout ce qui s'appelle le vol et la prévention des pertes, là, en fait, tout ce qui s'appelle le vol à l'étalage en quelque sorte. Donc là, c'est des problèmes réels, encore plus concrets, je dirais, quand la sécurité des gens elle-même est directement mise en jeu. Ça fait bouger davantage les corps policiers que de comprendre que c'est pas juste du vol, c'est également la sécurité des gens qui est en jeu. Mais puis malheureusement, encore une fois, c'est l'aboutissement du fait qu'on a malheureusement, avec les années, trop peu arrêté les individus en question. Et ça provoque que des fois, certains se sentent libres comme l'air et ne veulent plus se faire du tout interpeller et sortent les poings malheureusement dans certains cas.
Mais quand vous dites violence, là, parlons-en, est-ce que c'est ça, c'est sortir les poings, c'est de la violence armée, est-ce que c'est des personnes qui...
C'est la violence verbale, violence physique, des fois c'est du vandalisme, donc de plusieurs natures. Puis ça, c'est un phénomène malheureusement encore une fois qui est grandissant, qui a grandi beaucoup depuis la pandémie et pendant la pandémie, qui malheureusement ne fait que continuer à grandir. Donc d'où l'idée qu'il y a une urgence en quelque sorte d'agir, pas juste pour une question de prix, pas juste pour une question que c'est désagréable, mais c'est une question de sécurité publique réellement, dans laquelle ça fait partie aussi du travail des policiers de s'assurer qu'il y a de l'ordre partout, lorsque c'est possible évidemment, on parle aux policiers d'être partout, mais lorsqu'on sait qu'il y a des enjeux, on doit interagir et seulement avoir une loi, des lois qui sont suffisamment sévères pour dissuader les gens.
Michel Rochette, président du Conseil canadien de commerce de détail au Québec, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel.
Après les avertissements et les photos dégueulasses, là, on va le dire, sur les paquets de cigarettes, les fumeurs canadiens vont voir à partir d'aujourd'hui des messages dits dissuasifs imprimés directement sur la cigarette de format king size, là, le grand format. Et il va y avoir des messages à partir d'aujourd'hui qui seront imprimés, comme je le disais. Et on va voir quoi comme message? Du poison dans chaque bouffée, la cigarette endommage vos organes, la cigarette cause le cancer, la fumée du tabac nuit aux enfants, la cigarette cause l'impuissance, la cigarette cause la leucémie. Est-ce que ce genre d'impressions sont vraiment efficaces? On va poser la question à Mme Annie Papageorgiou, directrice générale du Conseil québécois sur le tabac et la santé. Bonjour Mme Papageorgiou.
Oui, bonjour.
Est-ce que c'est efficace que d'imprimer sur chaque cigarette des messages qu'on a déjà sur les paquets de cigarettes à qui on vient récemment de changer la couleur pour les rendre peu intéressantes, voire repoussantes?
Comme la cigarette tue un fumeur sur deux, moi je dirais toutes les chances qu'on a de rappeler les messages pour informer les gens qui fument sont importants. Est-ce que c'est la meilleure mesure? C'est le temps qui va nous le dire, mais c'est la combinaison des mesures qui nous aide dans la lutte contre le tabac.
Avez-vous des données quant à l'effet qu'a eu le changement de couleur des paquets de cigarettes qui a été introduit dans les dernières années? Est-ce que ça a eu un effet à la baisse dans le tabagisme?
Bien, on voit qu'à chaque année, le nombre de fumeurs diminue au Québec. Donc, comme je vous dis, c'est un ensemble de mesures qui amènent une efficacité. Présentement, on a 12 % de fumeurs au Québec et à chaque année, 13 000 personnes meurent à cause du tabac chez nous. Donc, 12 % c'est beaucoup moins qu'il y a 20 ans et il faut continuer d'appliquer des mesures, il faut continuer de passer des messages de sensibilisation, d'information. Et ces messages sur les cigarettes, c'est important de dire qu'ils sont surtout pour ceux qui peuvent être initiés au tabac, qui ne vont pas s'acheter de paquets de cigarettes. Donc, ça permet un rappel de message, et surtout auprès des jeunes qui, bien souvent, reçoivent une cigarette là quand ils veulent commencer à fumer là, par un père, par un plus vieux. Alors, c'est là où il y a un impact avec ces messages-là sur les cigarettes individuelles.
Parce que je me pose la question, on met beaucoup d'énergie sur... avoir ces photos-là sur les paquets de cigarettes, avoir ces messages-là sur les cigarettes directement, avoir des couleurs peu attrayantes. Et je suis d'accord, moi, pour tous les éléments qui font en sorte que la cigarette soit repoussée, la cigarette soit en déclin dans notre société. C'est un cancer pour notre société. Je suis d'accord. Mais je me demande, l'effort que l'on est en train de faire, est-ce que c'est un effort qui est efficace? Est-ce que ça, écrire sur chaque cigarette, c'est plus efficace que de mener des campagnes de sensibilisation dans toutes les écoles secondaires du Québec pour leur dire « commence même pas la première cigarette avant de passer à la deuxième ». C'est pour ça que moi, je me pose des questions. On est-tu toujours en train de faire semblant qu'on agit contre le tabagisme alors que finalement on est juste en train de se flatter dans le sens du poil?
Bien, moi, je ne pense pas qu'on se flatte dans le sens du poil. Je pense surtout qu'on essaie de prendre les mesures qui sont nécessaires. Donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'on travaille contre une industrie qui est créative et qui connaît bien le marketing. Présentement, on a un nouveau phénomène au Québec et partout dans le monde, qui est le vapotage. On a un jeune sur trois de secondaire 4 et 5 qui est maintenant dépendant à la nicotine parce qu'il vapote. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'on a qu'un jeune qui est dépendant à la nicotine par le vapotage a 4 fois plus de risque de devenir un fumeur de cigarettes. Donc moi, quand je sais que le jeune risque qui est dépendant à la nicotine par la vapoteuse risque de recevoir une cigarette individuelle pour essayer la cigarette de tabac et qu'il y a un message sur la cigarette, je suis rassurée. Mais je vous dis, c'est un ensemble de mesures. Oui, continuer de passer des messages clairs aux jeunes, continuer d'avoir des messages de sensibilisation, de continuer d'offrir du soutien aux personnes qui fument pour les aider à arrêter de fumer. C'est une combinaison on va avoir une augmentation de la taxe. C'est une autre mesure. L'histoire donne raison à l'ensemble de ces mesures-là. Il faut continuer. D'ici 2035, l'objectif du fédéral, c'est d'atteindre le 5 % de fumeurs au Canada. Il faut continuer dans ce sens-là.
Quels sont les autres moyens que l'on devrait réellement mettre là, tu sais, qui auraient un impact, qui a été éprouvé dans d'autres juridictions, dans d'autres pays, qui ont eu un impact significatif à court terme, au-delà là, de l'emballage, puis tout ce qu'on peut travailler sur la sensibilisation. Est-ce qu'il y a d'autres moyens autres que la taxation et l'emballage qui a eu un effet sur la baisse du taux de tabagisme?
Bien, écoutez, au Québec et au Canada, on est assez, on a mis des mesures importantes rapidement et les autres pays nous ont suivis. Nous sommes assez précurseurs sur la façon d'agir contre le tabac. Il faut continuer dans ce sens-là. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut jamais arrêter d'augmenter la taxe. C'est sûr que c'est une mesure qu'on n'aime pas entendre, mais c'est la mesure la plus efficace qui a été reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Maintenant, comme je vous ai dit, on travaille contre une industrie qui est créative, qui a des moyens. Moi, c'est sûr que je suis préoccupée de voir autant de fumée à l'écran. Je suis préoccupée de voir autant de nouveaux produits sortir, donc de continuer d'offrir des services pour aider aux fumeurs à arrêter de fumer. C'est un autre moyen de les rendre encore plus accessibles. Ça aussi, ça pourrait grandement aider. Il y a les services J'arrête qui sont confidentiels et gratuits, qui sont à la disposition des fumeurs adultes. Et il y a maintenant une application qui s'appelle Libère, qui s'adresse aux adolescents de 12 à 17 ans pour les aider à arrêter de vapoter, qui est disponible également. Donc, c'est continuer de discuter, d'avoir une discussion comme on a aujourd'hui, hein, de se poser les bonnes questions, ça va nous aider. Puis surtout, d'avoir de la compréhension. Arrêter de fumer, c'est quelque chose de très difficile. Il faut accompagner les fumeurs. Il faut comprendre que c'est un sevrage qui est difficile à passer au travers. Chaque cigarette non fumée, c'est un gain de santé. Il faut s'en rappeler. Donc, ça prend beaucoup de bienveillance et d'accompagnement auprès de nos fumeurs également et nos jeunes qui, malheureusement, certains ont développé la dépendance à la nicotine à cause du phénomène du vapotage.
Le vapotage, évidemment, il y a eu un encadrement récent, notamment l'interdiction des produits, des arômes là, dans les liquides de vapotage. Mais reste qu'il y a encore des couleurs. Moi, je vois encore du monde avec des belles couleurs, du rose fluo, du jaune fluo. Il y a peut-être pas de saveur. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur parce que, visiblement, il y a encore des moyens de s'approvisionner facilement, mais à quand des messages comme ceux-là sur les produits de vapotage? J'ai l'impression qu'ils sont comme, pour le moment, ça reste quand même assez cute dans les mains des jeunes.
Oui, je comprends votre préoccupation, nous la partageons également, mais le vapotage, comme c'est un nouveau phénomène, on y va par étapes. Alors, il y a plusieurs étapes qui ont été franchies, dont les saveurs, c'en est une. Mais de mettre des mesures comme celle-là, de la nouvelle réglementation, ça prend du temps, ça prend de l'encadrement, ça prend également, pour mesurer leur impact, ça va nous prendre du temps. Effectivement, c'est préoccupant de savoir que dans les produits de vapotage, on ne sait pas toujours ce qu'il y a à l'intérieur. Et comme L'industrie est très créative, comme je vous disais. Les formules changent. On n'est jamais certain de qu'est-ce qui est consommé. Donc, moi, j'invite les gens à être très prudents quand s'ils ont accès à des roasters de saveurs ou toutes sortes d'autres produits pour mettre dans leur cigarette électronique. Je leur demande d'être prudents. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et l'autre message que j'aimerais passer, c'est quand on co-consomme, donc on augmente les risques. Alors, quand on fume la cigarette et qu'on vapote, ben les risques de santé augmentent également. Donc, ça aussi, c'est un message important là, à passer aux fumeurs.
Avant de vous laisser aller, j'aimerais savoir le cannabis pré-roulé vendu par une société d'État, la Société québécoise de cannabis, la SQDC, est-ce qu'on va avoir des messages pour dire que la cigarette, le tabac, la drogue cause le cancer, endommage les organes, cause l'impuissance, ou ça, quand c'est une société d'État, c'est pas si pire que ça?
Bien, écoutez, il y a toujours d'améliorations à faire dans les messages qui doivent être passés, mais une chose qui est importante, c'est que la dépendance à la nicotine chez les adolescents, c'est pratiquement instantané. Quand on commence à consommer de la nicotine, on devient dépendant rapidement. Et ce que ça fait dans un cerveau qui n'est pas complètement à sa pleine capacité développée de façon optimale à partir de l'âge de 21 ans, ça fragilise l'intérieur du cerveau.
Et le cannabis aussi?
Susciter justement le développement de d'autres dépendances. Donc, c'est pour ça que c'est important d'agir rapidement sur la nicotine. Maintenant, les produits de cannabis sont encadrés, sont vendus dans des endroits qui sont sécuritaires. Continuer dans ce sens-là, il faut aussi prévenir les jeunes, leur donner les bons messages par rapport à la consommation. Il y a des produits de vapotage qui ont du cannabis vendu illégalement. Il faut faire du travail auprès des jeunes également concernant ça. Je vous dis, on n'a pas terminé, mais d'encadrer, de s'assurer que le produit qui est consommé est réglementaire, c'est déjà rassurant que de se le procurer dans la rue. Donc, c'est déjà un bon pas. Il faut continuer dans ce sens-là, mais la sensibilisation va demeurer le cheval de bataille, l'encadrement pour les produits de nicotine également, puis de continuer de surveiller cette industrie qui est créative et qui n'a pas de scrupule de rendre les gens dépendants à un produit aussi néfaste qui tue un fumeur sur deux au Québec.
J'espère que nos gouvernements et nos autorités réglementaires vont être plus créatives et à tout le moins être aussi créatives que l'industrie. Parce qu'honnêtement, écrire sur les cigarettes, ça manque un petit peu de créativité. J'ai l'impression qu'il nous faut un petit peu plus de peuple, un petit peu plus d'idées, un petit peu plus d'originalité pour faire arrêter le monde de fumer. Annie Papargeorgiou, directrice générale du Conseil québécois sur le tabac et la santé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça me fait plaisir.
C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche, de mise en onde, aux invités et aux chroniqueurs. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube.